Parking Nomade.
Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Parking Nomade qui s'intéresse à la littérature dans tous ses états. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le romancier et journaliste Louis-Bernard Robitaille qui vient de publier « Dernier voyage à Buenos Aires ». C'est un roman, c'est paru aux éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia. Louis-Bernard Robitaille, bonjour, merci bonjour. D'avoir accepté notre invitation. Il est des romans réputés intraduisibles, que l'on pense à « Finnegan's Wake » de Joyce. Il est des romans à l'intrigue impossible à résumer, que l'on pense au tambour de Günter Grass ou alors c'est au prix d'une simplification à outrance. Il est aussi des romans dont il paraît impossible de résumer avec justesse l'atmosphère qu'ils installent, le plus souvent autour d'un ou deux personnages, sinon au prix d'une trahison. Eh bien, Dernier voyage à Buenos Aires, qui émeut profondément, entre dans cette dernière catégorie, du moins à mes yeux et à mes oreilles. Comment évoquer en quelques mots l'atmosphère qu'il installe, on va pourtant tenter de le faire, ne serait-ce que pour donner à l'auditeur et futur lecteur du roman la possibilité, l'envie aussi d'entrebâiller cette porte. Alors, Dernier voyage à Buenos Aires raconte à la première personne le séjour à Paris de plusieurs années, ce séjour, d'un jeune Américain qui y débarque, c'est en 1965, pour y étudier. C'est un fils à papa, un peu.
Oui.
Avec le rêve de devenir écrivain.
D'un administrateur universitaire de Providence, Rhode Island.
Oui, donc...
Bonne famille.
Bonne famille, oui, libérale, oui. D'ailleurs, américains libéraux.
Tout
plutôt,
à fait. Libéraux, et la mère est plutôt francophile et traductrice de poésie pour des revues littéraires un peu confidentielles.
Donc on voit tout de suite le milieu américain un peu privilégié, on va
oui.
le dire. Ce jeune homme à Paris va rencontrer une femme, Magdalena, qui va le bouleverser et on va comprendre peu à peu comment et pourquoi il est bouleversé. Alors cela commence comme un roman d'apprentissage, une sorte d'éducation sentimentale. Cela devient aussi, parce que toutes ces couches s'ajoutent, une peinture de mœurs, d'une époque et d'une ville dans la meilleure tradition du genre. Et cela finit aussi, mais ça ne finit pas, comme la quête identitaire d'une fille à qui l'époque ne permet pas d'aimer son père comme elle le voudrait. Voilà, vous ai-je trahi avec ce pauvre résumé?
Ben écoutez, oui, ça me paraît effectivement assez complet. Effectivement, j'avais conscience... Mon premier projet, enfin, quand je commence un roman, de toute façon, je ne sais jamais, d'abord, comment il va finir. Vraiment, je ne le sais pas et je ne sais même pas si je vais le finir. Et donc, il y avait une première couche qui a été installée il y a quand même quelques années. Et cette couche, c'est effectivement, c'était juste une éducation sentimentale à Paris, effectivement. Et malgré tout, bien que Paris, mais bon, Paris est une... Si j'ose dire, Paris comme Rome, c'est un cliché, mais ça, bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ça n'empêche pas que les choses ont existé de cette manière. Et donc, j'avais parfaitement conscience que le fait qu'on a un jeune Américain de bonne famille arrive à Paris, surtout d'ailleurs dans le but ou en rêvant de devenir le grand écrivain américain, évidemment...
Oui. Il a quelques prédécesseurs fameux
oui,
dans le genre.
Peu, il est un peu, oui, c'est ça. Évidemment, en tant qu'Américain, évidemment, il revoit surtout Henry Miller à la terrasse,
ouais.
En fumant une cigarette à la terrasse du Dôme. Fitzgerald et Hemingway un peu moins, mais il y a beaucoup de...
Mais tout de même, ils sont là, comme,
ils sont quand même
comme
là,
des figures ouais. tutélaires. Là,
tout à fait, oui.
Ouais.
Donc lui se dit, et il va à Shakespeare and Company.
Évidemment, au lieu de la culture.
Voilà.
Anglo-saxonne.
Oui, d'ailleurs, il ne sait pas que c'est un faux Shakespeare and Company. Parce que le premier Shakespeare and Company rue de l'Odéon
et
de Sylvia Beach, en réalité, ceux qui ont repris en face de Notre-Dame ont juste repris le nom qui devait traîner, parce que ce n'est pas du tout, il n'y a aucune filiation entre les deux. Mais enfin, il y va, et puis il y a beaucoup de livres, et il fuit les milieux américains parce qu'il veut devenir voilà, s'intégrer dans la bonne société littéraire française, ouais. Ce qui marche modérément.
Modérément. Et ses ambitions, on verra, seront déçues. Paris est une fête, on le sait depuis Hemingway, mais que représente tout de même Paris pour les écrivains américains des années 30, 50 et 60? Je sais que ce sont des générations littéraires différentes, mais quel imaginaire et comment l'avez-vous utilisé, réquisitionné pour le roman?
Je ne sais pas, en réalité, les seules vraies bonnes années pour les romanciers américains, c'était les années 20 et les années 30. Ouais. Par la suite, il y a des gens qui viennent se promener. Peut-être que le passé est toujours mieux que le présent et l'avenir. Déjà, quand on regarde, lui, il est en 1965, au fond, la grande époque, elle est terminée. Hein.
Oui, bien sûr.
En 65, il y a des gars qui sont à Paris, mais bon, comme d'autres, il y a toujours eu des...
Il y a toujours des aspirants écrivains qui traînent à Paris.
Oui, ou même des gens qui, pour une raison ou pour une autre, il y avait quelques écrivains américains, mais il n'y avait plus ce milieu, cette espèce d'effervescence, justement, que James Joyce était publié par Sylvia Beach dans les années 20. Donc, dans les années 60, on a l'impression que l'âge d'or, l'époque héroïque est terminée. Mais quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit quand même que le milieu des années 60, ben, c'était pas si mal. C'est peut-être mieux qu'aujourd'hui. Enfin, il y avait moins de zones piétonnes, de rues piétonnes, et il y avait moins de McDo également.
Oui, alors un mot justement de cette période, les années 60. On sent à vous lire un plaisir, oui, je dirais, certains à évoquer certains objets du Paris des années 60, de la culture, de la civilisation, de la société, et aujourd'hui disparu, tombé en désuétude, que l'on pense, je ne sais pas moi, par exemple, les communications outre-mer hors de prix, ce qui fait qu'on envoie des télégrammes.
Ça coûtait l'équivalent de, je crois, 40 $ la minute aujourd'hui, quoi. Ça coûtait 17 francs la minute. On se mettait à côté d'un téléphone, on attendait 2 heures, entre 2 heures et 3 heures pour avoir la communication. Et après, on payait très, très cher. Envoyer un papier, ça coûtait 60 $.
Ouais, les fameux téléphones à jetons aussi.
Les téléphones à jetons, il y avait 3 modèles de jetons. Alors, on n'avait jamais le bon modèle. Enfin, les gens avisés avaient toujours les 3 modèles dans leur poche, voilà. Ouais.
Mais ça semble...
Et les autobus à plateforme... cher à Maigret et à Simenon,
oui.
C'est-à-dire qu'on courait derrière le bus, on montait par l'arrière du bus, on s'installait sur la plateforme et on pouvait continuer à fumer sa cigarette.
Voilà. Oui. Alors même si l'histoire est tragique, on sent dans cette évocation d'un Paris disparu un réel plaisir de votre part. C'est un peu pour le saisir de nouveau, le rattraper, que vous l'avez mis en scène d'aussi éloquente façon.
Je pense que ça va vraiment dans le détail, c'est-à-dire que c'est pas juste « Oh là là, quelle belle carte postale », disons, ça va quand même beaucoup dans le détail. Et le fait d'aller dans le détail, probablement, ça contribue un peu à détruire le cliché, c'est-à-dire qu'on voit que c'est pas un cliché, qu'il y a vraiment une réalité très, très détaillée. D'ailleurs, bizarrement, les 2 ou 3 personnes qui m'ont dit oh, « tout ça, c'est un cliché », etc., c'était des Nord-Américains, tandis que... Donc, dans Le Canard enchaîné, ils ont été très frappés, justement, par...
Cette évocation,
justement, les œufs durs sur leur carrousel, sur le comptoir des bistrots. Il y avait toujours... Dans le plus petit bistrot, il y avait toujours 6 œufs durs installés sur leur carrousel avec le sel au milieu. Mmh. Et puis, c'était très, très ritualisé. Bon, il y avait plein de... Enfin, c'était une vie beaucoup plus artisanale, quoi.
Oui. Jefferson et Magdalena connaissent un temps la vie de bohème dans ce Paris, même si ça ne va pas sans mal entre eux. Là, c'est un amour en pointillé aussi qui va se mettre en place.
En fait, si lui, ça revient à la surface, parce que bon, je pense qu'on peut le dire, comme il va devenir aveugle, il a l'intention plutôt d'aller mettre fin à ses jours à Buenos Aires. Fatalement, bon, c'est une affaire très, très... C'est un épisode sentimental tout à fait majeur, évidemment, de sa vie. Parce que c'était une très belle femme, bon, etc.
Sosie de
Jane Seaberg, oui. Ouais. Et en plus, elle se met à vendre le New York Herald Tribune aux Champs-Élysées. Pas très longtemps, mais enfin, elle garde le blouson, quoi. On est vraiment dans un bout de souffle. Et le fait aussi que c'est quand même sa première... C'est sa première passion.
Ouais.
Donc, c'est quand même la première femme qui revient... qui se termine elle-même, dont la vie se termine abruptement de façon tragique. Et bon, il y a tout une aura de romantisme autour d'elle, parce que, en tant que jeune Américain de bonne famille ou même pas de bonne famille, il faut quand même dire que, sauf à remonter à la guerre de sécession, disons que l'Amérique du Nord n'a pas connu de conflit dévastateur depuis un siècle et demi. Tandis que lui, il arrive en Europe, il y a une Allemande, il y a la France, et il y a une histoire beaucoup plus tragique.
Alors justement, tragique, le mot est lâché, c'est là toute la force de ce roman. Peu à peu s'installe la tragédie. La tragédie frôle de son aile, on peut dire, les destins de ces deux êtres. Celui de Magda, au premier chef, dont on apprend très tôt, vous l'avez évoqué, qu'elle s'est suicidée. Donc ce n'est pas ça le moteur du roman, en fait. Pourquoi s'est-elle suicidée? Mais c'est peu à peu qu'on va le découvrir. Et dans toute sa profondeur, la tragédie aussi du personnage principal de Jefferson, qui semble un peu revenu de tout, là, désabusé. Alors, ce ne sont pas les années 60 qui sont tragiques, mais celles de la guerre qui les ont précédées et qui pèsent sur le personnage de Magdalena, qui est allemande, vous l'avez dit. Quel état d'esprit avez-vous abordé le sujet, on va le dire, du nazisme et du passé nazi de l'Allemagne, qui est un sujet difficile pour un écrivain?
D'ailleurs, finalement, c'est un sujet risqué, surtout. Oui. C'est un sujet très risqué parce qu'il y a plein de gens qui... Donc, j'ai été étonné de constater que, bon, ça semblait s'emboîter. C'est-à-dire que de moi-même, je n'aurais jamais, fait un roman ou un metteur en scène des enfants de nazis ou des nazis, etc. N'étant pas allemand, je ne me sentirais aucune légitimité pour évoquer ce genre de sujet. Mais en réalité, en l'occurrence, c'est une affaire assez naturelle, c'est-à-dire qu'un jeune Américain de 20 ans, baby boomer, qui a une famille sans histoire, rencontre une Allemande, etc., et elle-même, c'est-à-dire que lui-même, en tant que un peu innocent ou candide, finalement, se trouve par hasard ou par les hasards de la vie, confronté à une histoire qui, elle, est beaucoup plus tragique. Mais ça peut arriver, des gens qui sont... pas insignifiants, mais je veux dire, qui n'ont pas un passé très lourd, ils finissent par se retrouver mêlés à une histoire. Parce que l'autre chose, c'est qu'en 1965, on avait facilement l'impression que la guerre était... D'abord, tout le monde avait voulu l'oublier, évidemment.
Était chose du passé.
Mais du passé, d'un passé révolu, très très lointain. On a l'impression que c'était une histoire qui s'était passée il y a un siècle plus tôt. Alors qu'en réalité, justement, à Noël, ils s'en vont faire en stop un voyage à Munich... Et incidemment, lui constate et on constate que en 1965, des gens qui avaient été au cœur de l'affaire, soit des victimes, soit des bourreaux, avaient 50 ans à peine. Ouais. C'est-à-dire qu'on était en plein là-dedans. Je me souviens très bien qu'à 20 ans, on avait l'impression que c'était des histoires très très anciennes. D'autant plus que vraiment, en France et en Allemagne, enfin surtout en France d'ailleurs, on avait décidé de tourner la page et de ne plus du tout en parler.
Au nom de la réconciliation, parce que la France avait été divisée aussi entre ceux qui avaient collaboré et ceux qui avaient fait
de
la résistance.
Ça c'est sûr.
Ça a été une volonté de De Gaulle à un moment donné de dire...
Mais même par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient de famille juive ou en 65 et après, et en particulier en 65, les gens qui étaient d'origine juive, personne ne voulait en parler. C'est-à-dire que eux-mêmes, les victimes, avaient vraiment... Les gens qui étaient revenus ou qui avaient subi cette catastrophe, d'abord parce qu'ils avaient des enfants, ils voulaient absolument préserver leurs enfants de ce genre d'histoire abominable. Et puis, finalement, la meilleure façon de tourner la page, c'est de faire comme si ça n'avait pas eu lieu, ce qui est évidemment totalement illusoire.
Oui, parce que ça vous rattrape de toute façon l'histoire. Et on a vu en littérature, on a vu que la génération subséquente d'enfants, on va dire, a interrogé ses géniteurs là-dessus.
Oui. En Allemagne, c'est un peu particulier parce que vraiment, on ne peut pas dire que les... comment dire, les institutions publiques n'est pas, on peut pas dire qu'ils aient masqué la chose. La télévision, l'éducation nationale.
Il y a eu un devoir de mémoire là.
Ils se sont sentis, bon, je veux dire, franchement, se sont sentis un peu coupables. Hein. Ouais. Bon, et donc à juste titre, ils ont fait, mais ils ont fait quand même, le travail. Mais par contre, dans les familles, c'était le silence total.
Ouais.
En Allemagne, c'était... Dans les familles, il ne s'était rien passé. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre? J'ai fait la guerre. Bon, terminé. Et on passait au sujet suivant.
Et c'est un peu ce qui apparaît là, dans Filigrane et puis parfois même dans certaines scènes, très exactement. Alors, Magda, parce que son diminutif, c'est Magda,
voilà.
Elle idolâtrait son père qui meurt en 1962, qui était un directeur d'école, instituteur.
Qui était avant.
Avant, dans la vie, dans le civil.
Voilà, un peu romantique, élégant.
Élégant et qui et lecteur de poésie.
Lecteur de poésie.
Et qui s'est retrouvé vraiment broyé par la guerre, réquisitionné, en tout cas dans un premier temps, et, intégré au 59e bataillon et envoyé sur le front de l'Est où, on le sait, les
Pas tout à fait le front de l'Est. Il est envoyé derrière le front. C'est une unité où ils ont plutôt 50 ans à l'époque. Ils n'étaient pas envoyés sur le front. Ils sont chargés du maintien de l'ordre, mais dans les territoires occupé là, à cheval sur la Pologne, l'Ukraine, etc. Et donc, très rapidement...
Ils doivent commettre des exactions. Là. Il y a
des massacres de masse.
Des massacres de masse de juifs qui se déroulaient en effet sur le front de l'Est, mais qui se déroulent là aussi. Il y a des représailles.
Derrière, parce que s'il y a des partisans, s'il y a 3-4 partisans qui attaquent l'armée allemande, tout de suite, boum, s'il y a un Allemand qui est blessé ou tué, on fait 200, on exécute 200 otages. Et après, on prête la main au Einsatzgruppen pour expédier des Juifs qui viennent de partout, pour les expédier vers les camps de la mort.
Donc, Magda, elle a un an quand Hitler se suicide et que là, on est vers la fin de la guerre.
Voilà.
Et son père meurt en 1962 et il est revenu. Il a été fait prisonnier.
Il est revenu des camps soviétiques, il était au Kazakhstan.
Des camps soviétiques. Et donc, elle idolâtrait ce père et elle est en très mauvais terme avec sa famille.
Oui, il est revenu de l'enfer, c'est un héros, quoi. En plus, évidemment, il ne parle jamais, et il va écouter de la musique.
Il se brouille, mais il devient étranger à sa femme.
Totalement,
dans la famille, ben, c'est une famille, on dirait aujourd'hui, dysfonctionnelle, et ce serait un euphémisme, parce que c'est beaucoup plus profond que ça, le malaise dans cette famille.
Oui, c'est un silence de plomb.
Une chape de plomb, en fait.
Et elle est très amoureuse de son père.
Quoi. Et un jour, sa mère va lui dire, interroge un ancien camarade et puis il va te dire, lui, ce que ton père a fait. Et donc, j'en viens à ce sujet. Elle va interroger donc cet ancien camarade, aujourd'hui un vieillard, il porte le nom de Biedenkopf.
Biedenkopf, oui.
Et elle va l'interviewer. Et là, il raconte, on a un récit dans le récit, il raconte ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été obligés de faire. Et il dit notamment, seuls ceux qui ont fait l'expérience, et là, il parle de l'apocalypse qui était la guerre avec le chaos extrême, savent qu'on perd tout discernement. Quand on donne à l'homme le permis de tuer, il n'y a plus de limite, c'est aussi bête que cela. Une telle explication ne revient-elle pas à banaliser un peu le nazisme? C'est la thèse d'Anna Arendt, hein, quoi qu'il en soit, dans le procès de Eichmann à Jérusalem.
Oui. Après, il y a eu des choses sur les Einsatzgruppen, parce que en fait, c'était des unités régulières de gens très ordinaires qui sont allés massacrer à Babi Yar ou dans d'autres circonstances, et donc des gens qui étaient très pacifiques, très ordinaires, sont devenus des tueurs. Non, j'ai vu d'autres gens qui ont... Il y a un curé qui essaie de rétablir la carte des
camps.
Des fosses communes en Ukraine.
Ah oui.
Il y a 1,5 million de gens, et pour leur redonner une sépulture normale. Et c'est exactement ce qu'il me disait. Et l'auteur des Disparus, que j'avais interviewé, Mendelssohn, disait la même chose. C'est à partir du moment où on donne aux gens le droit de tuer, mais même, évidemment... Pour les soldats de l'armée allemande, on leur dit, bon, maintenant, vous y allez, puis voilà, il n'y a pas le choix. Enfin, il y a le choix.
Ce sont des ennemis.
Il y a toute une propagande
aussi.
Il y a une propagande, mais on dit, c'est la guerre. Bon, on exécute des otages.
Ouais.
Les partisans tirent dessus. etc. Mais ça a été le cas aussi dans, en Ukraine, surtout en Ukraine ou en Russie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pouvait, les Juifs, on pouvait les abattre à vue, il y avait aussi des voisins qui s'en mêlaient. Parce qu'il y avait des haines, etc.
Des histoires,
puis
ouais.
On va leur prendre la maison, ouais. On va leur prendre les trois vaches. Donc, ouais. Et donc, à partir du moment, effectivement, où on a le droit, on donne le droit de tuer, je veux dire, le nazisme n'a pas l'exclusivité dans ce genre d'horreur, quoi.
Ouais. Sauf qu'il a fait...
Il a battu tous les records de l'histoire.
Oui, bien sûr. Et puis, il fait sauter tous les verrous, enfin, toutes les barrières, toutes les lois. Biedenkopf commente, on vous aurait dit, vous savez, on extermine les Juifs. Vous auriez répondu, ah bon, vous êtes sûr, on extermine que les Juifs. Vous vous trompez, on extermine tout le monde. Ça, c'est ce qu'il dit à un moment donné. Et le roman montre en effet la souffrance morale et physique du peuple allemand qui se perpétue chez les enfants de la génération subséquente. Mais encore une fois, n'est-ce pas là diminuer la spécificité de l'entreprise d'extermination des Juifs d'Europe? C'est le reproche qu'on a fait, par exemple, mais ce n'est pas un reproche que je vous fais. Là.
Oui, oui.
Je commente la lecture,
oui,
là,
oui.
Parce qu'elles sont réelles, les souffrances du peuple allemand aussi. Mais c'est le reproche qu'on a fait à Günter Grass, par exemple, quand, avec son roman...
Ah, vous voulez dire les souffrances de la génération suivante?
Non, on extermine tout le monde.
Tout le monde
souffre de la guerre. Et,
ah, non, il voulait dire on extermine tout le monde. On extermine les commissaires politiques. Soi-disant les commissaires politiques.
Ah, tout le monde y passe.
Je veux dire, tout ce qui est. C'était une zone. C'est-à-dire, contrairement à ce qui s'est passé en France ou en Italie, ou en France en particulier, que les Allemands occupaient, je veux dire, même en Pologne, et plus on s'enfonçait vers l'Est, je veux dire, n'importe quel soldat allemand pouvait abattre 2-3 Polonais sans avoir d'embêtement.
Ouais.
Et quand on arrivait vers les Ukrainiens, on pouvait tirer à vue, on pouvait dire ça, c'est un suspect, c'est un terroriste, etc. Donc on exterminait beaucoup de gens. Et en plus, les gens qui étaient au milieu de ce maelstrom voyaient passer des cargaisons de blessés qui arrivaient vers l'arrière, des prisonniers russes qu'on laissait crever dans des temps. Les prisonniers russes qu'on a laissés totalement crever, genre 1,5 million, 2 millions de prisonniers russes qui sont morts de faim dans des enclos non approvisionnés. Mmh. Donc, effectivement, on a tué beaucoup de gens.
On ne dévoilera pas la fin, Lou Bernard Robitaille, c'est entendu, mais une dernière question. Jefferson Woodbridge est-il un lâche?
Ça pourrait s'apparenter à cette catégorie, ouais. Elle lui dit, écoute, tu as été... elle a connu après des types qui étaient, si j'ose dire encore pire...
Des salauds.
Lui était plutôt un salaud par abstention. Elle dit, tu étais plutôt un Luftmensch, c'est-à-dire...
Une espèce de courant d'air.
Un courant d'air.
Sans substance.
Je ne sais plus si c'est en yiddish ou en allemand, mais un Luftmensch, c'est quelqu'un, il est là, puis 3 jours après, il reste 3 ans dans la maison, puis après, hop, il a disparu, il a fait ses...
Il fuit.
C'est un peu... Il s'apparente un peu à la catégorie des lâches, en effet.
Oui, alors, Louis-Bernard Robitaille, il y a cette phrase, « Ceux qui n'ont jamais tué ne savent pas ce qu'est la vie », dit Jefferson. Laissons-nous sur ces mots qui mêlent honte, oubli, désir d'anéantissement, dégoût de soi aussi.
Et
un peu d'ironie. L'ironie traverse aussi tout le livre, là, qui n'est pas plombé pour autant. Louis-Bernard Robitaille, je rappelle le titre de votre roman, troublant, touchant, « Dernier voyage à Buenos Aires, publié aux éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia. Parking Nomade est diffusé à l'antenne de Radio Ville-Marie. À la technique aujourd'hui, Nathalie Jarreau. Au microphone, Marie-André Lamontagne. À la prochaine.